إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, on reprend ce soir la lecture et l'explication du livre de la prière, extrait de l'ouvrage Manhaj al-Salikin de l'imam Sheikh, l'imam Abd al-Rahman ibn Nasir al-Nasi'idi rahimahullah ta'ala. Nous en sommes aujourd'hui au chapitre que l'auteur rahimahullah ta'ala a intitulé Bab Mufsidat al-Salah wa makruhatiha, chapitre au sujet de ce qui annule la prière et ce qui est détestable dans celle-ci. Ce qui annule la prière, c'est-à-dire les choses qui rendent la prière vaine et invalide. Si tu les fais dans ta prière, alors il est obligatoire pour toi de recommencer cette prière. Quant aux choses détestables, elles n'invalident pas la prière, toutefois elles en diminuent la perfection ainsi que sa récompense. C'est-à-dire que plus la personne va faire des choses détestables dans sa prière, moins la récompense de cette prière sera grande. On voit donc à travers cela que ce chapitre est un chapitre important, lié à la validité de cette adoration immense qu'est ta prière. Le Cheikh rahimahullah ta'ala va donc commencer par nous mentionner les choses qui annulent la prière. Il dit « Tabtulu s-salah bitarki ruknin wa shartin wa huwa yaqdiru alayh » La prière est invalidée par le délaissement d'un pilier ou d'une condition alors qu'il en est capable. On a vu dans les cours précédents quelles sont les conditions et quels sont les piliers de la prière. Et on a vu que la prière, elle ne peut pas être valide sans l'accomplissement de ses conditions et ses piliers. Et on a vu la différence entre les deux, que le pilier fait partie intégrante de la prière, tandis que la condition, elle la précède et continue durant celle-ci. Donc celui qui délaisse un pilier ou une condition de sa prière, sa prière est invalide. Toutefois, le Cheikh rahimahullah ta'ala nous émet une condition importante et il dit « alors qu'il en est capable », c'est-à-dire qu'il est capable d'accomplir ce pilier ou cette condition. À titre d'exemple, en ce qui concerne la station debout. La station debout, c'est un pilier de la prière. Pour la prière obligatoire, celui qui prie assis alors qu'il a la capacité de prier debout, sa prière est invalide. De la même manière, celui qui a la capacité de se prosterner, mais qui délaisse la prosternation, alors celui-ci, sa prière est invalide. De la même manière, celui qui délaisse les ablutions, l'orientation vers la Qibla, et ainsi de suite parmi les conditions et les piliers de la prière que l'on a mentionnés précédemment. Quelle que soit la condition ou le pilier, s'il est délaissé alors que la personne est capable de le faire, la prière est invalide. Quant à celui qui est incapable de faire ce pilier ou cette condition, si son incapacité est réelle, alors celui-ci est excusé et sa prière est valide, incha'Allah ta'ala. À l'exemple du malade qui ne peut pas se tenir debout, ou celui qui, en raison d'un handicap, ne peut pas se prosterner au sol, et autre chose semblable. Cela, leur prière est valide, incha'Allah ta'ala. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit, le délaissement d'un pilier ou d'une condition, alors qu'il en est capable. Ensuite, il dit, rahimahullah, amdan, ou sahwan, ou jahlan, que ce soit volontairement, par oubli ou par ignorance. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne les piliers et les conditions de la prière, il n'y a pas de différence entre le fait de les délaisser volontairement, par oubli ou par ignorance. Quelle que soit la raison qui a mené au délaissement de ce pilier ou de cette condition, alors que la personne en est capable, sa prière est invalide. Comme il l'a dit, rahimahullah ta'ala, s'il ne le fait pas, idha lam ya'ti bihi. C'est-à-dire qu'il ne revient pas à cette condition ou ce pilier. À titre d'exemple, l'ordre. Si la personne fait volontairement la prière sans ablution, on sait que sa prière n'est pas valide. Mais s'il oublie, il rentre en prière alors qu'il a oublié de faire ses ablutions. À ce moment-là, s'il s'en rappelle durant la prière, il est obligatoire de sortir de celle-ci, car il n'est pas en prière, en réalité sa prière est invalide, étant donné que la prière sans ablution est invalide. Il doit les refaire et refaire sa prière. Et ce que ses ablutions se soient annulées durant sa prière, c'est-à-dire qu'il les a perdues durant la prière, dans ce cas-là il sort, refait les ablutions et refait cette prière. Ou alors qu'il a oublié de faire ses ablutions et qu'il est entré en prière en état d'impureté. Et même celui qui ignore l'obligation des ablutions. Tout cela, leur prière est invalide. La preuve à ce sujet est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un jour vu un homme qui priait alors qu'il y avait une partie de son pied qui n'avait pas été touchée par l'eau, c'est-à-dire par l'eau des ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors ordonné de refaire les ablutions ainsi que la prière. Donc ceci est une preuve très claire de l'obligation de refaire la prière lorsque la personne manque à une de ses conditions. Et il en est de même concernant les piliers, comme on l'a vu dans le cours précédent concernant les prosternations de l'oubli. On a vu que celui qui, par exemple, par oubli, après la lecture de la Fatiha et de la sourate qui la suit, se prosterne et oublie l'inclination. À ce moment-là, il est obligatoire pour lui de revenir à l'inclination. Il se prosterne. Au moment où il se prosterne, il se rend compte qu'il a oublié l'inclination. Il revient alors en inclination. Et ceci est obligatoire. S'il ne revient pas, sa prière est annulée. S'il ne s'en rappelle qu'à l'unité de prière suivante, c'est-à-dire qu'il oublie l'inclination, il se prosterne, s'assoit, se prosterne, puis se relève pour la deuxième unité. Et une fois qu'il est debout pour la deuxième unité, il commence à réciter la Fatiha. Il se rend compte qu'il a oublié l'inclination dans la première unité de prière. Dans ce cas-là, il annule cette unité. Cette unité, elle est invalide. Et il fait comme si la deuxième était la première, comme s'il venait de commencer la prière. Et c'est cela que signifie la parole du Cheikh rahimahullah ta'ala, s'il ne le fait pas. C'est-à-dire que s'il fait cela, qu'il revient à ce pilier, qu'il fait cette condition, alors sa prière sera valide, inshallah ta'ala. Quant aux détails concernant la prosternation de l'oubli, on les a déjà mentionnés dans le cours précédent. Et ici, il y a une question qui se pose, concernant l'ignorant. Celui qui délaisse un pilier ou une condition de sa prière par ignorance. Une fois qu'il prend connaissance de cela, quel est le jugement de ses prières passées? Doit-il uniquement rattraper la prière présente ou alors doit-il aussi rattraper les prières passées? La réponse est qu'il doit seulement rattraper la prière présente. Quant aux prières passées, il ne lui est pas demandé de les rattraper. La preuve à ce sujet est le hadith au sujet de cet homme qui faisait mal sa prière et ne faisait pas preuve de quiétude durant celle-ci. Alors il priait, puis lorsqu'il terminait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait: pars et va prier car tu n'as pas prié. Alors il recommençait la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait encore: retourne et va prier car tu n'as pas prié. Et ainsi de suite à plusieurs reprises. Jusqu'à ce que cet homme dise: ô messager d'Allah, je ne connais rien d'autre que cela. C'est-à-dire, je prie de la manière que je connais. Alors enseigne-moi, apprends-moi comment faire la prière. On comprend donc très clairement de ce hadith que cet homme ne savait pas faire la prière autrement et qu'il a donc certainement prié auparavant de cette manière. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a ordonné de refaire que la prière présente et ne lui a pas ordonné de rattraper ses prières passées. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit: wa bi tarki wajibin amdan. Et la prière s'annule également par le délaissement d'une obligation volontairement. Si par exemple une personne délaisse volontairement le premier tashahhud, dans la prière où il y a deux tashahhuds, alors celui-ci, à partir du moment où c'est volontaire, sa prière est invalide. Car il s'est opposé volontairement à ce qu'a légiféré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ce qu'il a ordonné. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique rapporté par l'imam muslim rahimahullah ta'ala: celui qui accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, son œuvre sera rejetée, ne sera pas acceptée. Il n'est donc pas permis de délaisser les obligations de la prière volontairement. Mais celui qui est ignorant ou qui le délaisse par oubli, alors sa prière est valide, inshallah ta'ala. Celui qui ignore que le premier tashahhud est une obligation dans la prière. Il vient d'entrer en islam, il sait que la prière du dhuhr a quatre unités, et il fait le tashahhud seulement la quatrième unité. Il ne fait pas de tashahhud au milieu de sa prière. Alors celui-ci, en raison de son ignorance, sa prière est valide, inshallah ta'ala. Quant à celui qui le délaisse par oubli, alors, comme on l'a vu dans le dernier cours, s'il s'en rend compte qu'une fois qu'il est debout, il continue sa prière, puis, avant les salutations finales, il fera les deux prosternations de l'oubli. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala dit: wabil kalami amdan. Et la prière est annulée aussi par le fait de parler volontairement. La preuve à ce sujet est le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala, d'après Zayd ibn Arqam, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit: nous avions pour habitude de parler durant la prière. L'homme parlait à son ami lorsqu'il était à côté de lui dans la prière, jusqu'à ce que soit révélée la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 238 de Surat al-Baqarah: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. Et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Il dit, radiyallahu ta'ala anhu, il nous a alors été ordonné de garder le silence et il nous a été interdit de parler. Ceci est donc une preuve de l'interdiction de parler durant la prière. Donc celui qui parle volontairement, sa prière est invalide. Quant à celui qui parle par oubli, par exemple, il entend quelqu'un parler et il lui répond oubliant qu'il est en train de prier. Alors au moment où il s'en rend compte, il s'arrête immédiatement et il continue de prier et sa prière est valide, incha'Allah ta'ala. Et ce, car c'est une erreur. Il ne l'a pas fait volontairement. Et il en est de même concernant l'ignorant, celui qui ne sait pas qu'il est interdit de parler dans la prière. S'il parle, sa prière est valide, incha'Allah ta'ala. La preuve à ce sujet est le hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. D'après Muawiya ibn al-Hakam, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit: alors que je priais avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire derrière le messager, durant la prière en commun, un homme parmi les gens présents a éternué. Je lui ai alors dit: Yarhamukallah, qu'Allah te fasse miséricorde, alors qu'il était en train de prier. Les gens alors m'ont tous regardé. Je leur ai alors dit: qu'avez-vous à me regarder? Ils se mirent alors à frapper leurs mains sur leurs cuisses, et ce afin de le faire taire. Il a alors ensuite gardé le silence. Puis une fois la prière terminée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu à lui. Et Muawiya radiyallahu ta'ala anhu nous dit: je n'ai jamais vu un enseignant avant lui et après lui ayant une meilleure pédagogie que la sienne. Par Allah, il ne m'a pas brusqué, il ne m'a pas tapé et il ne m'a pas dénigré. Pourtant, il venait de faire une chose de grave. Il a parlé durant la prière, au point de déranger l'ensemble du groupe. Imaginez-vous aujourd'hui qu'une personne viennent à la prière en commun et se mettent à parler. Imaginez simplement la situation à la fin de la prière à la mosquée. Il n'y a pas de doute que celui-ci se ferait brusquer, que nombre de personnes hausseraient le ton sur lui, et ainsi de suite. Or, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a rien fait de cela. Il lui a simplement dit: certes, cette prière, il ne convient rien dans celle-ci parmi les paroles des hommes, mais seulement le tasbih, la proclamation de la pureté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le takbir, la proclamation de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la récitation du Coran. Il lui a appris qu'il n'était pas permis de parler durant la prière, et lui a indiqué que, durant la prière, il n'y a que le rappel d'Allah, la lecture du Coran, qui sont légiférés. On voit donc dans ce hadith qu'il ne lui a pas ordonné de refaire sa prière. Et si refaire sa prière était une obligation, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aurait ordonné. Ceci est donc une preuve claire et évidente que celui qui parle par ignorance, sa prière est valide, incha'Allah ta'ala. On ne doit pas lui ordonner de la refaire. On lui apprend juste que ceci n'est pas permis, qu'il ne doit pas le refaire, et on ne lui ordonne pas de renouveler sa prière. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit: wabil qahqaha. Et la prière est annulée également par l'éclat de rire, c'est-à-dire le fait de rire au point de se faire entendre. Ceci annule la prière à l'unanimité des gens de science. Et ce, car le fait de rire durant la prière, cela s'oppose à l'humilité obligatoire dans celle-ci. Et c'est même, comme l'a mentionné Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, une forme de mépris vis-à-vis de cette prière, une forme d'amusement. Cela revient à prendre la prière en raillerie, de rire durant celle-ci. Donc si une personne rit durant la prière, sa prière est annulée et lui incombe de la recommencer. Quant au simple fait de sourire sans produire de son, c'est par exemple, alors que tu es en train de prier, il se produit un événement qui te fait sourire, mais que tu ne ris pas, qu'il n'y a pas de son qui sort de ta bouche. Tu fais simplement un sourire. Dans ce cas-là, la prière est valide, incha'Allah ta'ala, elle n'est pas annulée. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a dit: وَبِلْ حَرَكَةِ الْكَثِيرَةِ عُرْفًا الْمُتَوَالِيَةِ لِغَيْرِ ضَرُورَةِ. Et par les mouvements nombreux selon l'usage, s'ils sont successifs et sans nécessité. Et les savants sont également unanimes à ce sujet. Car la base est que tu fasses preuve d'humilité et de quiétude durant ta prière. Et tu ne dois pas bouger. Donc si tu fais des mouvements en dehors de ceux de la prière, ceux-ci peuvent l'annuler à trois conditions, comme l'a mentionné le cheikh, rahimahullah ta'ala. La première est que ces mouvements soient nombreux. Et le cheikh, rahimahullah ta'ala, nous dit selon l'usage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nombre délimité. On ne dit pas à partir de 3 mouvements, à partir de 4 ou à partir de 5. Il n'y a pas de nombre particulier. C'est-à-dire que cela revient à l'usage. Si lorsque les gens te voient faire ces mouvements, ils considèrent que tu n'es pas en prière. Il se peut parfois que la personne est tellement agitée durant sa prière qu'en la regardant, on ne sait même pas qu'elle prie. Dans ce cas-là, ces mouvements seront considérés comme nombreux. Quant aux mouvements légers, alors ils n'annulent pas la prière. Toutefois, s'ils sont futiles et n'ont pas d'intérêt, ils sont détestables, comme on va le voir, inshallah ta'ala. La deuxième condition est que ces mouvements soient successifs, c'est-à-dire qu'ils soient les uns à la suite des autres. Mais si une personne fait un mouvement inutile dans sa prière, durant la première unité, puis ensuite à la deuxième unité il fait encore un mouvement, et à la troisième il fait encore un mouvement, et à la quatrième il fait encore un mouvement, alors ces mouvements dans ce cas-là ne sont pas successifs. Donc si ce sont des gestes futiles, ils seront détestables, mais ils ne vont pas annuler sa prière. Car pour l'annuler, il faut qu'il soit successif. La troisième condition est qu'il soit fait sans nécessité. C'est-à-dire que ce soit des gestes inutiles, qui n'ont pas d'intérêt dans la prière. Quant au fait de faire des mouvements dans l'intérêt de la prière, ou alors pour un besoin, qui ne sont pas des gestes inutiles, et qui sont légers, qui ne font pas sortir la personne de son apparence de prière, alors cela n'annule pas la prière. À titre d'exemple, il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a un jour prié sur le minbar, et ce afin que ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum le voient et puissent observer sa prière pour le prendre pour exemple. Donc il faisait la station debout et l'inclination debout sur le minbar, et lorsque venait le moment de la prosternation, il faisait quelques pas en arrière, descendait du minbar, se prosternait au sol, puis après les prosternations, il se relevait et remontait sur le minbar. Ceci nous prouve que quelques mouvements légers durant la prière, s'il y a un intérêt en cela, il n'y a pas de mal, inshallah ta'ala. Également, il est rapporté qu'un jour, il a ouvert la porte à Aïcha radiyallahu ta'ala anha, alors qu'il était en prière. Donc ceci nous prouve que faire quelques mouvements légers s'il y a un besoin, et que cela ne te fait pas sortir de ton apparence de prière, il n'y a pas de mal, inshallah ta'ala. Et ces deux hadiths sont rapportés par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Également, il est rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a un jour prié alors qu'il tenait dans ses bras sa petite fille. Et lorsqu'il se prosternait, il la posait, puis la reprenait en se relevant. Ceci sont donc des gestes légers qui sont permis durant la prière en cas de besoin. Tant que tu restes en direction de la qibla, que tu ne sors pas de ton apparence de prière, il n'y a pas de gêne, inshallah ta'ala. Par exemple, si une personne a manqué une unité dans la prière en commun, et qu'après celle-ci, il y a du monde qui sort de la mosquée, il se trouve sur leur chemin et il craint que quelqu'un passe devant lui pendant qu'il rattrape ses unités manquantes. Dans ce cas-là, il n'y a pas de gêne à faire un ou deux pas pour se rapprocher d'une sotra. Également, si tu entres en prière et tu te rappelles que tu as oublié de mettre ton téléphone en silencieux, alors il n'y a pas de gêne à le prendre dans ta poche et de mettre ton téléphone en silencieux. Car ceci est dans l'intérêt de la prière, afin de ne pas déranger les personnes dans le cas où ton téléphone sonnerait. On voit donc l'erreur de certaines personnes qui, lorsqu'ils sont en prière, leur téléphone sonne et ils le laissent sonner tout le long de la prière, dérangeant ainsi l'ensemble des fidèles. Pourquoi? Car ils pensent qu'il n'a pas le droit de bouger. Ils pensent faire le bien. Ils pensent qu'il ne doit pas bouger durant sa prière, alors ils laissent le téléphone sonner durant toute la prière, dérangeant ainsi l'ensemble des fidèles. Et le plus grave dans cela, c'est qu'il se peut parfois que cette sonnerie soit une sonnerie musicale, wal'iyadu billah. Et ceci est encore plus grave. Donc si une personne a son téléphone qui sonne durant la prière, ce qui lui incombe, c'est de le sortir de sa poche, de l'éteindre et de le mettre en silencieux. Et il n'y a pas de gêne en cela, même s'il n'a pas encore sonné. Donc les mouvements qui annulent la prière, ce sont, comme l'a dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, ceux qui sont nombreux selon l'usage, successifs et sans nécessité. Enfin, il a dit, rahimahullah, « لِأَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ تَرَكَ مَا لَا تَتِمُّ الْعِبَادَةُ إِلَّا بِهِ وَبِالْأَخِيرَاتِ » Il dit que ces choses qu'il vient de mentionner, elles annulent la prière. Pourquoi? Car en ce qui concerne la première chose, il a délaissé ce sans quoi l'adoration ne peut pas être valide. Ensuite, il dit, et les dernières choses, concernant les dernières choses qu'il a mentionnées, le fait de parler volontairement, de rire, ou de faire des mouvements nombreux, successifs, sans nécessité, il aura alors fait ce qui est interdit durant celle-ci. Donc en résumé, si on voulait résumer ce qui annule la prière, on dirait, le délaissement de ce sans quoi la prière ne peut pas être valable, comme les piliers et les conditions, et le fait de commettre une chose qui est interdite durant la prière. Et certains savants ont donné plus de détails concernant ce qui annule la prière. Ils ont mentionné par exemple le fait de grandement dévier de la qibla, et en réalité ceci revient à délaisser une condition. Ils ont également mentionné le fait de ne pas respecter l'ordre dans les gestes de la prière volontairement, et ceci aussi est le délaissement en réalité d'un pilier. Ils ont mentionné également le fait de faire les salutations volontairement avant d'avoir terminé la prière. Ceci également invalide la prière, pourquoi? Car tu n'auras pas complété les piliers de ta prière. Donc tout ceci, ce sont des détails que certains savants, rahimahumullah ta'ala, ont mentionnés, afin d'être plus explicites sur ce sujet. Mais le premier point que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné, englobe tout ceci. Et également, parmi les choses qui annulent la prière, il y a le fait qu'une femme pubère passe devant la personne qui prie, entre elle et sa sutra, alors la prière est annulée. Comme cela est venu dans un hadith, rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. Ceci est donc concernant ce qui annule la prière. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a mentionné les choses détestables et il a dit « Wayukrahu al-iltifatu fi s-salah » et il est détestable de détourner le regard durant la prière. « Lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam su'ila an al-iltifati fi s-salah » car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé à ce sujet. « Faqal huwa ikhtilas » يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est une chose que le diable vole subtilement de la prière du serviteur. Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala d'après Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Donc ce qui est demandé du serviteur, c'est que lorsqu'il est en prière, il maintienne son regard sur le lieu de la prosternation. Tu regardes l'endroit où tu te prosternes, et tu ne détournes pas ton regard durant la prière, et tu ne tournes pas ta tête, car ceci s'oppose à l'humilité demandée en prière. Il est donc détestable de tourner son regard durant la prière, comme le font certaines personnes qui, lorsqu'ils prient, regardent à droite, à gauche, regardent ce qu'il se passe autour d'eux, et ainsi de suite. Ceci s'oppose à l'humilité qui est demandée en prière et attendue du serviteur lorsqu'il prie. Donc lorsque tu pries, il est demandé de toi que tu fasses preuve d'humilité. Et pour cela, tu vas maintenir ton regard en direction de l'endroit où tu te prosternes. Et s'il y a un besoin à tourner légèrement le regard, à titre d'exemple, une femme prie chez elle alors qu'il y a avec elle son enfant en bas âge. Et pendant qu'elle prie, elle entend un bruit. Et l'enfant est sur sa gauche ou sur sa droite, par exemple, ou plus loin devant elle. Il n'y a pas de mal dans cette situation à ce qu'elle se tourne légèrement pour regarder que l'enfant va bien, afin de pouvoir continuer sa prière avec quiétude. Également, il n'y a pas de gêne lorsque tu pries en commun à lever les yeux pour regarder l'imam, pour regarder où il en est, afin de voir s'il s'est prosterné, s'il s'est levé, ainsi de suite. Car ceci est dans l'intérêt de la prière. Mais si la personne se tourne au point de tourner son corps et de dévier de la qibla, par exemple, il se retourne pendant la prière, alors ceci la rend invalide. Ce n'est pas seulement détestable, car ainsi il aura manqué à une des conditions de la prière qui est le fait de rester orienté en direction de la qibla. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit « وَيُكَرَهُ الْعَبَثُ » et il est détestable de faire des choses futiles. Toute futilité est détestable durant la prière. Comme par exemple ceux qui vont regarder leur montre pendant la prière, ou alors toucher leur barbe. Ou autre exemple, parmi les mouvements qui sont futiles et n'ont aucun intérêt. Et ce car ils s'opposent, comme on a dit, à l'humilité qui est attendue de toi durant la prière. Lorsque tu pries, tu dois te rappeler que tu te tiens debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Est-ce que lorsque tu te rends à un rendez-vous important, à un entretien de travail, pendant que tu parles à ton interlocuteur, tu vas regarder ta montre, faire des mouvements inutiles, bouger tes mains, bouger tes pieds? Qu'est-ce que la personne va penser de toi si tu agis ainsi? Il n'y a pas de doute que tu vas faire attention à chacun de tes faits et gestes, afin, comme on dit, de faire bonne figure. Alors que dire lorsque tu es en prière devant Allah subhanahu wa ta'ala? Il n'y a pas de doute que cela nécessite de toi beaucoup plus d'efforts que lorsque tu fais face à une créature. Il est donc détestable de faire des mouvements futiles durant la prière. D'ailleurs, il est même rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit au sujet d'un homme qui aplanissait la terre devant lui à l'endroit où il se prosterne, c'est-à-dire durant la prière. Vous savez, lorsqu'on prie en plein air, il se peut parfois qu'il y ait devant nous des cailloux ou que la terre ne soit pas plate, et qu'on soit tenté à l'aplanir avec nos mains durant la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si tu le fais, alors fais-le une seule fois. Et ce hadith est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah ta'ala. Al-Hafidh al-Nawawi, rahimahullah, a dit dans le commentaire de l'Authentique de Muslim, lors de l'explication de ce hadith, concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu dois le faire, alors une seule fois. Il a dit, rahimahullah, que cela signifie en réalité, ne le fais pas. Mais si tu le fais, alors ne le fais qu'une seule fois et n'ajoute pas à cela, ne le fais pas plusieurs fois. Et les gens de science sont unanimes concernant le fait que cela est détestable. Et ce, car cela s'oppose à l'humilité et distrait le prieur. Donc entre dans cela toute chose qui est semblable. Comme le fait, par exemple, de remettre son tapis en place durant la prière. Cela s'oppose à l'humilité demandée. Et cela te distrait sans aucun intérêt. Donc ceci, il convient de le délaisser. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a dit « Wa wad'u al-yad 'ala al-khasira » et le fait de poser sa main sur sa hanche. Et ce car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela, comme cela est venu dans un hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah ta'ala, d'après Abu Hurayra. Et on a vu lors du chapitre sur la description de la prière où on devait poser ses mains lors de la station debout. Lorsque tu récites le Coran, tu poses tes mains, la droite sur la gauche, sur la poitrine. Et il est détestable de les poser sur ses hanches, c'est-à-dire de tenir sa hanche avec sa main durant la prière. Ensuite, il a dit, rahimahullah, wa tajbiku asabi'ihi. Également, parmi les choses détestables durant la prière, il y a le fait de croiser ses doigts. Et ce, comme le démontre le hadith rapporté par Ka'b ibn Ujra, radiyallahu ta'ala anhu, qui rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, lorsque l'un d'entre vous fait ses ablutions, et qu'il parfait ses ablutions, puis qu'il sort en direction de la mosquée, alors qu'il ne croise pas entre ses doigts, car il est en prière. On voit donc dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de croiser les doigts où? Sur le chemin de la mosquée, lorsque la personne se dirige vers la mosquée pour accomplir sa prière. Les gens de science ont donc dit que si cela est interdit lorsque la personne se rend à la prière, cela est d'autant plus interdit durant la prière. Le musulman ne doit donc pas croiser ses doigts durant la prière, car cela fait partie des choses détestables, qui n'annulent pas la prière, mais qui en font perdre une partie de sa récompense. Ensuite, il dit, rahimahullah, wa farqa'atuha, également le fait de claquer ses doigts durant la prière. Si le fait de les croiser est détestable, alors que dire du fait de les claquer? Il n'y a pas de doute que ceci fait partie des gestes futiles qui doivent être délaissés durant la prière. Ensuite, il dit, rahimahullah, « Wa an yajlisa fiha muq'iyan ka iq'a il kalb » et qu'il s'assoit dans la position que l'on appelle al-iq'a, à la manière du chien. Et ce, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. En effet, Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné trois choses et lui a interdit trois autres. Et il dit concernant les trois choses qu'il lui a interdit, de picorer dans la prière à la manière du coq, comme on l'a vu dans le cours sur les piliers de la prière, le fait de manquer de quiétude, de se prosterner, s'incliner, se relever directement, comme un coq en train de picorer des graines. Donc il a interdit cela, et de s'asseoir à la manière du chien, la position d'Aliqa, et de détourner le regard à la manière du renard, de tourner les yeux à droite à gauche durant la prière. Donc Aliqa, la position qui est détestable durant la prière, c'est le fait de poser son postérieur sur le sol entre ses deux pieds, en mettant ses mains au sol. Ceci est la position à délaisser durant la prière. Et ce, car si la personne s'assoit ainsi, elle est assise à la manière du chien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit les positions qui ressemblent aux agissements des animaux durant la prière. Et cette position n'est pas à confondre avec une autre position qui elle aussi est appelée en arabe iqa'a, et qui elle fait partie de la sunna, et qui consiste à poser son postérieur sur ses talons en maintenant les orteils en direction de la Qibla, et ce entre les deux prosternations. Cette assise, lorsque Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhum l'a mentionné, il a dit que c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont donc deux positions différentes. Dans la première qui est interdite, la personne a son postérieur au sol, et dans la deuxième, il est posé sur les talons, et les orteils sont en direction de la Qibla. Et cette position, elle est légiférée, elle fait partie de la sunna, de s'asseoir ainsi de temps à autre, durant l'assise, entre les deux prosternations. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a dit « Wa an yastaqbila ma yulhi » et qu'il sois face à ce qui le distrait. C'est-à-dire qu'il est détestable durant la prière que tu sois face à ce qui pourrait te distraire durant celle-ci. Comme c'est le cas par exemple des dessins qu'il peut y avoir sur certains tapis. Même si ce ne sont que des formes, des fleurs ou autres, il se peut que cela distrait la personne durant sa prière et qu'il se mette à suivre du regard ses dessins durant sa prière. Également, il est détestable d'avoir face à toi des écritures que tu seras amené à lire durant la prière. Donc lorsque tu vas pour prier, tu dois faire en sorte de te mettre dans de bonnes conditions pour prier et qu'il n'y ait rien qui puisse te distraire. Concernant le sol, tu choisiras de préférence un sol de couleur unie, sans motif, afin de ne pas être distrait par ces motifs. Également, tu choisiras un lieu calme, dans lequel il n'y a pas d'agitation, afin de pouvoir te concentrer et ne pas être distrait durant ta prière. La personne doit donc faire des efforts pour accomplir sa prière de la meilleure manière et dans les meilleures conditions. Car il y a certaines personnes parfois qui disent: je n'arrive pas à me concentrer durant ma prière. Mais il ne se met pas dans les bonnes conditions. Il prie dans des lieux où il y a de l'agitation. Il prie à côté de personnes qui sont en train de discuter. Il n'y a pas de doute que ceci va distraire durant la prière. Donc lorsque tu vas pour prier, tu te prépares au préalable et tu prépares également l'endroit dans lequel tu vas prier afin de pouvoir au mieux te concentrer. Et on voit à travers cela également l'erreur de nombreuses personnes qui se rendent dans les mosquées avec des vêtements sur lesquels il y a des écritures ou sur lesquels il y a de nombreux motifs et ainsi de suite. Notamment si cela est dans le dos de la personne. Cela distrait les prières qui sont derrière lui. Il vient avec un vêtement sur lequel il y a des écritures. Sans aucun doute, il y aura quelqu'un dans le rang derrière lui qui va lire ces écritures. Il sera donc la cause pour avoir distrait un de ses frères musulmans, si ce n'est plus. Le musulman doit donc faire des efforts également pour venir à la mosquée avec une tenue convenable, afin de ne pas distraire ses frères et sœurs. Ensuite, le shir, rahimahullah ta'ala, a dit: « وَيَدْخُلَ فِيهَا وَقَلْبُهُ مُشْتَغِلٌ بِمُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْنِ وَبِحَضْرَةِ طَعَامٍ يَشْتَهِيهِ. Ou alors qu'il entre en prière alors que son cœur est préoccupé par le fait de repousser ses besoins, de repousser les salles ou l'urine. Ou alors par la présence d'un repas qu'il désire. » Ceci fait partie des choses détestables également. Que la personne entre en prière alors qu'elle a besoin d'aller aux toilettes. Tout le long de sa prière, il va être préoccupé par quoi? Par le fait qu'il a besoin d'aller aux toilettes. Il ne devra donc pas être concentré durant cette prière. Et c'est pour cela que cela est détestable. Car cela s'oppose à l'humilité demandée durant ta prière. Donc la personne, si elle a besoin de se rendre aux toilettes avant la prière, elle le fait, elle refait ses ablutions et elle rentre le cœur apaisé, prêt à se concentrer et faire preuve d'humilité dans cette prière. Et il en est de même concernant le fait que le repas soit prêt. Et le shir, rahimahullah ta'ala, nous donne une condition très importante ici qui est ignorée par beaucoup de gens et qu'ils le désirent. C'est-à-dire que si le repas est prêt mais que tu n'as pas faim, ou que tu as déjà mangé, ou alors que c'est une chose qui ne te donne pas envie, ou alors que ce repas ne peut pas encore être consommé, il est par exemple trop chaud, tu as le temps de prier le temps qu'il refroidisse. Dans ce cas-là, tu peux commencer par la prière. Mais ce qui est détestable, c'est d'entrer en prière alors que tu désires manger ce repas, et qu'il soit prêt à être consommé. Dans ce cas-là, il est préférable de commencer par manger et d'accomplir la prière après le repas. Et le shir, rahimahullah ta'ala, nous dit: لِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Il n'y a pas de prière en présence de nourriture, ni même alors qu'il repousse les deux besoins, les selles et l'urine. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumullah ta'ala. Et certaines personnes disent ici: et qu'en est-il durant le mois de Ramadan? Dois-je commencer par manger à l'heure du Maghreb ou alors par la prière? La réponse est que tu commences par rompre ton jeûne, mais seulement par ce qui suffit pour le rompre, c'est-à-dire quelques dattes et un verre d'eau par exemple. Et ensuite tu vas prier, puis après la prière, tu prendras ton repas. Car c'est ainsi que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il rompait son jeûne et il partait prier. Car il n'y a pas de doute qu'au Maghreb, le repas sera prêt et tous les musulmans ont envie de manger. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tous délaisser la prière du Maghreb en commun durant le mois de Ramadan, durant tout le mois. Il n'y a pas de doute que ce n'est pas cela qui est visé par ce hadith. Mais lors du jeûne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompait son jeûne avec quelques dattes ou alors avec de l'eau, comme cela est venu dans sa sunna, des dattes fraîches ou des dattes sèches, ou alors quelques gorgées d'eau. Puis ensuite, tu vas prier, et après la prière, tu prendras ton repas. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a dit: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذي العي في السجود. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit que l'homme pose ses avant-bras au sol durant la prosternation. C'est-à-dire que lorsque tu te prosternes, tu dois te prosterner sur sept membres comme on l'a vu lors du cours sur les piliers de la prière. Ton front et ton nez, tes deux mains, tes deux genoux et l'extrémité de tes deux pieds. Tu as donc tes deux mains posées au sol et à la sunna et que tu écartes tes coudes de tes côtes et que tu ne les poses pas au sol, qu'ils restent relevés. Et il n'y a que tes mains que tu poses sur le sol. Quant au fait de poser les coudes au sol, ceci s'oppose à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a interdit cela. Ceci fait donc partie des choses qui doivent être délaissées durant la prière. Et ceci est la dernière chose que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné dans ce chapitre. On va donc s'arrêter là pour ce soir. On verra dans le cours de demain le prochain chapitre qui concerne les prières surérogatoires. Wa sallallahumma wa sallim wa barik على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين